Bonjour, bienvenue chez Rêve Lucide. Vous écoutez notre podcast 20 000 lieues sous les murs.
20 000 lieues sous les
murs.
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 Rêve Lucide est une association qui promeut les cultures urbaines via le street art et le graffiti. Nous mettons en valeur l'art urbain sous toutes ses formes, ainsi que les artistes locaux, tout en faisant découvrir différents styles et techniques variées du street art. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de 20 000 lieues sous les murs. Aujourd'hui, je suis en présence de Matteo Nicoli, artiste, peintre et plasticien amiénois, qui va nous présenter son travail. Bonjour Matteo.
Bonjour.
Tu es un artiste amiénois ?
C'est ça.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Du coup, Matteo Nicoli, artiste amiénois, j'ai 24 ans, je vais sur 25. Je peins principalement à la bombe, je fais pas que de la peinture. Je suis artiste plasticien, mais je veux dire artiste pour pas rester que dans le plastique.
On va pouvoir parler un petit peu de ton parcours. Comment t'en es venu aujourd'hui à être artiste plasticien ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu produis ? Parce que c'est ton activité principale. C'est quoi ton parcours ? Est-ce que tu as toujours été intéressé par l'art ? Est-ce que tu as fait des études dans ce domaine-là ?
J'ai toujours plus ou moins été intéressé par l'art. J'en ai pas toujours fait. Enfin, j'ai toujours dessiné un peu, fait du graphisme. Je me suis intéressé un peu à tout. Photo, musique, tout. J'ai pas toujours tout fait, mais ça m'a toujours intéressé. Et après le lycée, je suis parti en fac d'art. J'ai fait une licence en art plastique à Amiens. Et c'est tout mon parcours artistique.
Alors, le parcours art plastique, ça t'a apporté des techniques ou quelque chose en particulier ou tu avais déjà une sensibilité sur, par exemple, la technique du spray ?
Rien en termes de technique, je dirais. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a donné des idées après à réfléchir. Mais en termes de technique, non, pas grand-chose.
Tu as juste fait une licence ou tu es parti sur un master par la suite ?
Je me suis arrêté après la licence, j'en avais marre des cours théoriques et même les cours pratiques n'étaient pas non plus super intéressants. Donc je me suis arrêté à la licence.
Tu as toujours un peu touché à tout, de la photo, dessin et autres. Est-ce que tu continues aujourd'hui ? Est-ce que tu allies encore des techniques différentes comme la photographie avec la production ?
Je fais un peu tout à côté, mais pas de manière pro, juste... comme ça, parce que j'aime bien, je touche encore un peu à tout.
Tu t'es mis à produire juste après la faculté où tu as une production assez importante ? Ou comment tu t'en es venu à choisir la voie artistique vraiment à 100% ?
Après la fac, je voulais plus rien faire en rapport avec l'art. Ça m'a trop saoulé de faire des cours théoriques tout le temps. Du coup, je voulais être dans la vente, dans les chaussures, sneakers de base. Et bah, c'était compliqué de trouver. En fait, j'ai fait une table en résine tout seul pour moi. Et après, je me suis dit, bah, en fait, elle est super bien faite, je pourrais en vendre. J'en ai fait d'autres. Et petit à petit, j'ai testé d'autres techniques, d'autres supports. Et ça a évolué comme ça.
Donc, du coup, tu as vraiment commencé ta production artistique pour toi. Et c'est à partir donc, du coup, la réalisation de mobilier que tu t'es dit que tu allais te lancer vraiment. Ouais. On a dit ton nom, c'est Matteo Nicoli, mais sur les réseaux sociaux, tu as aussi deux pages, donc Sacrifice Studio et 12 Pétales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux comptes, ces deux noms ?
Sacrifice Studio, de base, c'était juste Sacrifice. C'était quand j'étais au lycée, je voulais faire une marque de vêtements qui n'a jamais abouti. Et je cherchais un mot qui faisait français et anglais. Et je suis tombé sur Sacrifice, j'aimais bien. Il y en a qui trouvent que ça fait Sacrifice... très glauque, gore. Moi, je le vois plus en positif. Il faut faire des sacrifices si on veut réussir quelque chose. Je ne le vois pas en sacrifice diabolique. Et du coup, j'avais gardé ce nom depuis le lycée. Je savais que j'allais faire quelque chose avec, mais je ne savais pas quoi. Et sacrifice, c'était pris sur Instagram. Du coup, j'ai rajouté studio. Et en fait, ça colle bien parce que si je veux faire d'autres choses que de l'art dedans, ça me permet de diviser... de tout mettre dedans, en fait. Et 12 pétales, parce qu'en fait, de base, il n'y avait que sacrifice. Je faisais mes tables dessus, et quand je suis passé à des toiles, me suis dit que ça collait pas, je voulais pas mettre les deux en même temps, je voulais pas tout mélanger. Du coup, j'ai fait une autre page pour les tables, surtout tables et décorations murales. Et ça s'appelle 12 pétales parce que j'ai repris la fleur de Murakami et il y a 12 pétales dessus. Je me suis dit, bah, 12 pétales, tout simplement.
Ok. Et du coup, tu avais vraiment cette idée, bah, comme tu disais, tu voulais faire du commerce, de séparer les deux identités, ton propre travail.
C'est ça, ouais. Une plus artistique et l'autre plus commerciale où je fais des meubles en résine, tables et décorations murales.
Et aujourd'hui, ta production, elle est plus importante dans lequel des deux domaines ?
Sur la production artistique, donc Sacrifice Studio. 12 pétales, j'ai un peu mis de côté. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de contraintes, la résine, c'est compliqué. Donc je suis parti plus sur l'artistique pour l'instant. En plus, c'est ce qui a l'air de marcher le mieux pour moi. Donc je reste dessus pour l'instant.
Et du coup, tu es un fan de Murakami ou c'est juste que tu apprécies ses œuvres ?
Ouais, fan, c'est un grand mot, juste... Vu que j'étais dans un peu pop culture, sneakers, streetwear, tout ça, et qu'il est très dedans aussi, enfin, c'est assez lié. Bon, j'ai toujours vu ces fleurs, ça m'a inspiré.
Ouais.
Pop, coloré.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment le domaine pop, art pop, quoi.
Ouais.
Et donc, on n'a pas parlé de ta technique, mais donc, au début, quand tu as commencé à faire ton mobilier, tu partais. Enfin, en tout cas, si on va voir sur ta page Instagram. 12 pétales, c'est vraiment culture vraiment pop, iconique. Ouais. Voilà. Comment tu crées ton mobilier ? C'est quoi ta technique ? Comment tu approfondis ? Enfin, comment tu pars de l'idée pour aboutir à un objet vraiment du brut à l'objet dans le salon, vraiment présenté, ou au mur, comme tu dis, en décoration ?
Bah, en fait, je vois un logo ou une image qui me plaît bien, et qui je me dis, oh, ça pourrait bien rendre en table ou en mur. Je prends une planche de bois, de médium, je la projette dessus, je retrace tout, je fais bien, je découpe. Après, je prépare bien ma planche pour qu'elle soit bien lisse, bien propre. Je peins au pinceau, c'est que au pinceau. Une fois que tout est bien, nickel, bien peint, résine. Et après, en fonction si c'est une table, je mets des pieds, sinon une accroche pour le mur.
Et pour ce qui est la résine, c'est quand même une technique particulière. T'avais déjà travaillé la résine avant de te faire ta propre table ou t'as tout découvert en vraiment te lançant ?
Jamais, j'ai tout découvert sur ma première. J'ai fait ça un peu à l'arrache, avec de la poussière partout, pas de protection. Et le rendu était très bien pour une première.
Mais c'est fou de se dire que les études d'art plastique t'ont un peu dégoûté et que juste après tu te lances dans de la production. Justement, généralement, on pense que c'est le contraire, c'est que les études t'ont inspiré, on a fait des rencontres ou autres artistiques. De ce que tu produisais, j'imagine, un petit peu pendant la fac, tu as tout mis de côté. Vraiment, tu as fait un départ à zéro juste après.
Ouais, ouais, ouais. Sauf ma première table que j'ai fait pendant ma période fac, mais je l'ai fait sur mon temps libre. Mmh. Ça n'avait rien à voir, c'était juste pour moi.
Oui, c'était pas un travail
non,
demandé.
Non,
non. Okay. Et sur la partie de tes toiles, donc là, on est plus dans le domaine de la peinture à la spray. Comment t'en es arrivé ? Alors, moi, je connais uniquement tes toiles. Qui présente des dégradés de couleurs, nouvellement aussi avec des décors de fenêtres ou de villes au loin en nocturne. Est-ce que ça a été tes premières productions ou il y a des choses que tu n'as pas montrées au préalable ? Comment t'en es arrivé justement à trouver cette technique de vraiment faire la spray, ce motif ?
Je voulais faire des dégradés. Et j'avais testé au pinceau. J'y arrivais pas du tout. Les dégradés ne me plaisaient pas. Et en réfléchissant, je me suis dit, bon, bah, je vais tester à la bombe, peut-être que ça va plus me plaire. Et j'ai mieux réussi à la bombe, ça m'a bien plu, du coup, j'ai continué comme ça.
Et tu as découvert tout seul, il n'y a pas quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est généralement quand on a des artistes qui nous parlent du graffiti, il y a toujours une personne qui a influencé ou un artiste qu'on connaît dans la région ou autre. Toi, tu as vraiment tout fait tout seul.
Je n'avais jamais touché une bombe avant. Avant d'en acheter une pour faire des tests sur toile.
Mais tu connaissais déjà la technique.
Oui. Ouais.
Et c'est vrai qu'au pinceau, c'est plus complexe parce qu'au niveau déjà des nuances de couleurs, puis des passages, du nombre de passages, c'est un autre geste. Qu'est-ce qui te plaît jusqu'où dans cette gestuelle de peindre à la bombe sur toile ?
C'est intuitif, je dirais. Je vois un endroit, il manque un peu de couleur, hop, j'en rajoute de très loin, juste des micro-gouttelettes. Beaucoup de gestes avec la main. Pour que ça soit assez fluide et pas des grosses traces nettes. C'est tout, très volatile.
Actuellement, tes œuvres, la plupart sont visibles dans une exposition à l'agence IMO rue des Otages.
14 rue des Otages.
14 rue des Otages, exactement. Donc vous pouvez passer voir l'exposition en cours. Donc tu présentes plusieurs de tes œuvres. Donc là, on a parlé surtout des œuvres, enfin on en reparlera, mais au niveau des nuanciers, des dégradés de couleurs. L'autre partie sur la création du mobilier, mais tu fais aussi des œuvres lumineuses.
Oui, il y en a deux dispo à l'expo.
Pareil, ça t'est venu en travaillant à la spray ou en mélange des deux techniques?
C'était avant. Ma transition mobilier et spray, je voulais faire autre chose de mobilier, en fait, et je voulais faire un miroir. Et je m'avais fait une boîte en bois avec des trous, en fait, et il y avait un miroir dedans. Et je me suis dit, ouais, ça rendrait bien s'il y avait une LED qui éclairait le miroir de l'intérieur. Et j'ai essayé, ça rendait bien. Sauf qu'on voyait toutes les poussières qui étaient sur le miroir. Et j'en ai fait d'autres, en fait, sans miroir. Et là, je me suis dit, oh, c'est bien, en fait. Et j'en ai fait pas mal comme ça.
C'est vraiment un fond de toile ou carton peint avec un néon plaqué en fond. Et ça fait comme un coffrage.
Ouais, c'est que du bois.
Ouais.
Tout est en bois.
Et c'est toi qui crée tout.
Ouais, je pars de planches basiques et je découpe tout.
Là, pour ces œuvres-là, on va dire lumineuses, murales, tu travailles plus dans l'abstrait sur cette partie artistique. Qu'est-ce qui t'inspire, en fait? Parce que, par exemple, les dégradés de couleurs, on pourrait se dire, c'est ce qu'on voit naturellement quand c'est le coucher ou le lever du soleil. Et pour les formes de miroir, vu qu'il y a quand même... Enfin, il y a toujours un rapport à la lumière, quand même, dans le travail que tu fais. C'est quoi cette importance, en fait, du coup, de la couleur ou de la lumière, de la forme?
En fait, pour les lumières, je me suis inspiré d'un artiste, de James Turrell, un artiste américain qui fait des choses comme ça avec de la lumière. Bon, c'est bien différent quand même, mais l'inspiration vient de lui. Je me suis dit, ouais, j'aimerais bien recréer ça à ma manière. Et c'est tout pour l'inspiration, en fait.
Mais ton travail me fait beaucoup penser, je sais pas si tu vois, au minimaliste américain, Donald Judd, ça, ou même Dan Flavin, pour les néons en plein. C'est des néons qui sont placés en plein angle droit, et la diffusion de lumière fait que ça efface.
Ouais.
Les aspérités du mur ou même la forme. Voilà. Et du coup, toutes ces productions-là, ça se répartit comment dans l'ordre chronologique? Là, tu nous dis, tu as bientôt 25 ans. Entre la fin de la fac et aujourd'hui, donc ça a commencé par une table, ensuite les cadres lumineux et aujourd'hui les toiles que tu exposes. Comment ça s'est déroulé, en fait, la création? Tu étais à 100% dessus ou à côté, tu cherchais d'autres choses toujours?
Du coup, j'ai fait ma première table, c'était pendant le confinement, l'été. Donc 2020, je l'ai gardée chez moi quelques années. Un jour, je me suis dit, ouais, en fait, elle est bien. Et je cherchais du travail, justement. Je me suis dit, ah, elle est bien. J'aimerais bien la vendre, en fait, ou en faire d'autres. Enfin, non, pas vendre celle-là, mais en faire d'autres pour les vendre. Et là, j'ai commencé à vraiment en faire beaucoup et à me mettre à fond sur ça, arrêter de chercher du travail et me mettre à fond sur ça pour essayer de développer mon activité moi-même. Et après, ouais, c'est ça, ça a évolué. J'ai fait d'autres mobiliers. Enfin, j'ai essayé de faire des miroirs. Après, les lumières qui sont... les œuvres lumineuses entre le mobilier et l'art. Et après, je suis parti vraiment que sur de l'art des toiles. C'était comme ça mon évolution. Tout de 2023, je pense, début 2023, février, comme ça, j'ai commencé à vraiment faire des tables. Toute l'année 2023, j'ai fait que des tables. Et tout 2024, que des œuvres lumineuses. Et toile,
ouais. Est-ce que tu as une envie particulière d'évolution dans ton travail? Tu restes sur cette lancée-là? Parce que tu as quand même évolué assez rapidement sur ces trois ans. Tu as quand même testé trois pratiques artistiques assez différentes, mais qui se rejoignent dans ton cheminement de création. Et du coup, pour 2025, qu'est-ce que tu as des projets? Tu prévois de faire quelque chose toujours sur les toiles ou de rajouter encore une nouvelle pratique?
Je réfléchis pas trop à ça à l'avance, en fait. Ouais. Je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai une idée, je la fais. Et quand, en fait, en général, je fais quelque chose, ça me donne d'autres idées. Et ça évolue comme ça, en fait, petit à petit, pour ne pas stagner.
Comment tu identifies tes œuvres au niveau des titres ou autres? Est-ce que tu as des inspirations particulières qui vont faire que tu crées sur toi un certain dégradé? Ou alors tu regardes ton stock de bombes et tu te dis, bah, tiens, je vais mélanger celle-ci.
Non, les bombes sont achetées justement après avoir réfléchi aux couleurs. Ok. Ça part soit d'images que je vois sur les réseaux sociaux, Instagram, de coucher de soleil. Enfin, c'est pas vraiment coucher de soleil, c'est soit l'aube ou le crépuscule, donc quand le soleil n'est pas encore levé ou pas encore couché. Enfin,
oui, que t'es pas la pièce du soleil au milieu.
Le soleil n'est pas encore là. Et donc ouais, soit de photos que je vois, soit des palettes de couleurs de dégradés qui m'inspirent une ville, ou des fois c'est juste la ville qui m'inspire, ville ou partie du monde, région, peu importe, mais ouais, c'est, ouais, je m'inspire des noms en fait, ou des photos.
Est-ce que tu as déjà été amené à voyager et ça t'a inspiré, ou est-ce que c'est...
Inspiré, oui et non. En fait, c'est surtout dans l'avion que ça m'a inspiré, plutôt que dans les endroits. J'ai été à Taïwan 2 fois. J'ai été en Italie, Espagne, c'est tout. C'est déjà okay. Bien.
Ouais.
Et c'est surtout ouais, dans l'avion, la nuit, quand on voit toutes les villes en bas, ou même au coucher de soleil, les dégradés dans le ciel, ils sont bien dans l'avion.
Donc ça, par exemple, une de tes dernières œuvres, c'est une vue sur une ville avec des buildings. Donc ça pourrait être justement une vue aérienne.
Ouais,
tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y a dans le process, en fait, il y a des choses qui t'interpellent ou qui te déplaisent? Là, par exemple, on est chez toi, on est allé voir par exemple ton atelier. Donc tu parlais au niveau de l'époxy qu'il fallait pas que ce soit tout poussiéreux. Tu travailles dans une cave qui est quand même assez poussiéreuse. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais modifier du coup dans la pratique, pas forcément dans le lieu, mais dans la pratique pour adapter le milieu de ta création à ton œuvre, enfin, adapter tes œuvres à un milieu de création?
Non, pas spécialement. Je
n'ai
pas trop réfléchi, mais je ne pense pas, non.
Et donc, comment tu crées vraiment les dégradés? Là, on va vraiment partir sur la partie plus technique brute. On a vu que tu travailles sur toile principalement tout à l'heure. Et tu me disais aussi que tu commences à travailler sur carton, sur toile planche entoilée. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, en fait, ce support? Qu'est-ce qui explique ce changement?
De base, j'étais sur toile, du coup. J'en avais fait 6 et j'ai voulu en résiner une pour mélanger mes pratiques et pour voir ce que ça donnait de la résine sur une toile. J'étais pas satisfait du rendu parce que la toile devait être trop molle, du coup la résine a bougé dessus. Je me suis dit que j'allais le faire sur des planches pour au moins que ce soit bien plat, que la résine prenne bien. Au final, j'ai jamais mis de résine dessus, mais j'ai changé de support quand même. Et c'est tout en fait, c'est pour ça que j'ai les planches. Sinon après, je prépare bien mes toiles. Enfin, toile ou planche entoilée, avec du gesso, beaucoup de couches, beaucoup poncé pour que ça soit très très lisse. Sinon, on voit tous les défauts de la toile quand on peint la bombe. Je peins de manière très volatile, très loin de la toile. Des fois, je suis à presque 1 mètre de la toile, je mets juste des micro-gouttelettes dans l'air et elles vont se poser dessus. Du coup, je choisis pas non plus d'extrêmement où je pose les couleurs. J'oriente les gouttelettes.
Et du coup, ouais, ça fait une vaporisation vraiment très légère, mais ce qui te fait consommer une quantité astronomique de bombes, du coup, non?
Pas tant que ça, parce que je vise quand même la toile. Ouais. Donc ça va, ça se diffuse, mais sur la toile.
Et vu que tu n'as pas d'aspérité, vu que tu as poncé, tout bien préparé ta toile, du coup, ça tient peut-être mieux aussi?
Ouais. Mais ça fait beaucoup de poussière, du coup. À chaque fois, je reponce entre mes couches pour que ça soit bien lisse pour la couche suivante. Et aussi, pour retirer toute la poussière, si ça ponce mal, ça fait des aspérités qu'on voit. Et je trouve pas ça beau.
Oui. Là, tu as fait le test de glacer, en fait, de recouvrir ta toile d'époxy. Mais je dis époxy, mais est-ce que c'est vraiment ça?
Oui, c'est de la résine.
Ouais, résine, ouais, en résine. Voilà. Effectivement, ça fait un mélange entre tes deux plus grosses pratiques artistiques. Est-ce que tu es satisfait du résultat pour l'instant ou tu vas essayer de le perfectionner?
J'ai fait qu'un test qui date de l'été dernier et justement, j'étais pas satisfait parce que c'était sur une toile et qu'elle a bougé. J'aurais bien réessayé, mais en même temps, il y a beaucoup de contraintes. J'ai peur de les rater. Donc, peut-être je m'empêche pas de le faire si j'en ai envie, mais pour l'instant, peut-être pas.
Et justement, c'est quoi tes contraintes dans la production actuelle? Au niveau des meubles, tu as réduit en tout cas la pratique?
Complètement arrêté. Ça me prenait trop de temps pour très peu de résultats.
Sur cette pratique-là, donc tu me disais aussi il faut un milieu vraiment presque hyper propre, en fait, clean, parce que la résine absorbe absolument tout. Tu as réussi quand même à faire des œuvres très propres.
Ouais.
Tu as collaboré aussi avec notre collègue Quess. Est-ce que ça te donne aussi envie de collaborer avec d'autres artistes les pratiques?
Ouais, totalement.
Donc là, c'était pour une exposition qui avait aussi lieu à l'agence IMO. Et sur Amiens, est-ce qu'il y a des artistes que tu aimerais bien Vous travaillez avec qui t'aimerais bien travailler?
J'ai rencontré Anthony Huyn. Il m'a proposé aussi de collaborer avec lui avec de la résine. Il m'a fait visiter son atelier. On s'est bien entendu. Et sinon, sur Amiens, non. Après, je ne connais pas non plus trop les artistes. On suit sur Instagram, mais on n'a jamais trop parlé entre nous. Mais sinon, ouais.
Et tu prévois aussi d'une nouvelle production pour les nouvelles expositions prochainement?
Ouais, j'ai une autre expo de prévue le 8 et 9 mars à Montigny-sur-la-Lue pour un festival. Donc, juste après mon expo à l'agence IMO, je décroche et je raccroche la même semaine.
Là, tu travailles depuis chez toi. Est-ce que t'as envie aussi de bouger pour travailler vers l'extérieur? Les résidences artistiques, par exemple, qui sont souvent mises en avant pour les artistes plasticiens.
Je suis pas fermé à l'idée, mais j'ai pas trop réfléchi à ça non plus. Ouais. Pour l'instant, je vais dans mon atelier et c'est bon.
Ouais, ça te suffit, clairement. Ouais. Ok. Tes réseaux sociaux sont t'es très actif en tout cas sur les réseaux sociaux. Tu publies vraiment beaucoup. C'est quoi l'importance en fait de ces réseaux dans ta production artistique?
C'est ma seule visibilité, en fait. Parce que tant que j'ai pas d'expo ou de galerie ou quelque chose comme ça, c'est le seul endroit où je peux montrer ce que je fais. Donc pour ça, j'essaie d'être actif, de pas le laisser mourir, pour essayer de montrer au maximum ce que je fais.
Tu te filmes aussi en action quand tu fais tes œuvres. Est-ce que tu trouves que c'est une valorisation de ton travail? Est-ce que tu penses que ça peut être une autre partie de ta pratique artistique, comme de la performance, d'intégrer un peu plus la photo et la vidéo dans la pratique?
Non, je ne les vois pas comme ça, c'est vraiment pour la diffusion.
Juste la com. Okay. L'exposition que tu fais sur
Montigny-sur-la-Lue,
ouais. C'est pareil, c'est dans un espace clos, c'est en extérieur?
C'est dans une église désaffectée. Je crois que ça se dit désaffectée.
Oui, c'est ça, désacralisée, désaffectée. Ouais.
C'est organisé par David Dirui.
Okay,
photographe. Et il m'a proposé de participer. Il y a 14 autres artistes, il me semble, un concert. Donc c'est un petit week-end, un petit festival.
Okay. Tu te représentes comment dans le milieu artistique par rapport à ta pratique? Donc, tu disais artiste plasticien, contemporain, parce que d'actualité. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres mots que tu aimerais bien placer sur ta pratique?
Non, en fait, je fais un peu... J'ai pas envie de me limiter à une pratique ou quelque chose comme ça. Si je veux essayer autre chose, je peux. Donc, j'aime pas trop me mettre des étiquettes.
Ouais. Mais en tout cas, t'es pas du tout dans du figuratif. C'est pas ça, c'est pas du tout une prestation, un visuel qui t'intéresse.
Et non, aussi parce que j'y arrive pas. Je suis pas.
Ouais, c'est pas ce que tu préfères. Ouais. Quels artistes, par exemple, contemporains ou anciens, peuvent te toucher ou t'inspirer, même si ça n'a rien à voir avec ta pratique artistique? Est-ce qu'il y a des artistes ou des techniques que tu apprécies plus que d'autres?
Tout ce qui touche à la lumière, j'aime bien. Sinon, non, en fait, je m'inspire un peu de tout, je regarde un peu de tout, mais il n'y a pas une personne, une technique ou quelque chose qui... Je regarde un peu de tout,
Donc, est-ce que tu peux nous rappeler les dates de ton exposition à l'agence IMO?
Ouais, c'est jusqu'au 28 février.
Très bien. Au 14 rue des Otages, du coup. N'hésitez pas à aller voir l'exposition de Mathéo pour découvrir deux pratiques, du coup, les œuvres lumineuses et sur toile, parce que tu n'y exposes pas le mobilier.
Non.
Mais vous pourrez retrouver les productions sur sa page Instagram 12 pétales, donc 12 en 12, chiffres 1 et 2. Pétales. Voilà. Et ton autre page Instagram pour tout ce qui est plus pratique au niveau de la bombe et œuvres lumineuses, c'est
Sacrifice Studio.
Absolument. Merci beaucoup, Mathéo, pour nous avoir donné du temps. Et puis, on se retrouve bientôt, en tout cas, sur tes différentes expositions et puis dans l'année 2025 sur tes autres projets. Merci.
Merci.
Si vous souhaitez approfondir ce podcast et que vous appréciez les œuvres de Mathéo, vous pouvez aussi aller voir ses artistes de référence qui sont Jordan Tran, nommé OneKin sur Instagram, et Nick Tom. Jordan Tran est un artiste français qui vient du monde du graffiti et qui aujourd'hui travaille plus sur le domaine de l'abstraction. Il réalise des toiles à la peinture et donc au pinceau, qui comme Mathéo sont des dégradés de nuances de couleurs qui permettent de donner un fort pouvoir émotionnel et de rêverie et de contemplation aux toiles. Bien que Mathéo ne veuille pas être étiqueté en tant qu'artiste contemporain ou rentrer dans des cases, Ce mouvement, en tout cas cette pratique artistique, est l'héritage du color field américain. C'est un mouvement du style de peinture abstraite qui émerge à New York durant les années 40 à 50 et qui a pour but de présenter des peintures abstraites avec des aplats de couleurs nuancées qui n'ont pas d'objet comme motif. Ce style se distingue essentiellement par de grandes étendues de couleurs brutes et unies qui créent des plans ininterrompus. Les œuvres de Matteo ainsi que de Jordan Tran peuvent être aussi associées au mouvement du light and space, qui place au centre des préoccupations l'étude du phénomène de perception de la couleur, mais aussi de la lumière dans l'espace. Chose qu'on retrouve précisément dans le travail de Matteo, avec aussi ses œuvres lumineuses. Œuvres lumineuses qu'on retrouve aussi chez un autre artiste qui l'a inspiré, Nick Thom, artiste australien, qui lui, pour le coup, travaille à la spray, sur toile, et qui aussi vernit ses toiles à l'époxy, ce qui donne un rendu glacé aux œuvres. Nick Thom est aussi un artiste qui travaille sur des œuvres lumineuses dans l'espace public et urbain en extérieur, ce qui le place clairement dans le mouvement Light and Space. Nous vous invitons à suivre activement Matteo pour ses prochaines productions et notamment sa prochaine exposition au mois de mars. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de 20 milieux sous les murs avec l'artiste Tommy Thomas, actuellement en résidence au Crous universitaire en partenariat avec l'UPJV. À bientôt.
20 000 lieux sous les
murs.